Bienvenue dans ce nouvel épisode de Health Tech in Progress, le podcast qui fait tomber les barrières pour entreprendre dans la Health Tech. Je suis Mériadec Guignard, pharmacien-entrepreneur, et je te propose de venir avec moi rencontrer les aventuriers qui font la santé de demain. À travers les échanges que j'aurai avec eux, tu découvriras des parcours, des histoires et des personnalités qui t'inspireront pour entreprendre dans la Health Tech. Et bien sûr, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles ou partager cet épisode. C'est ce qui permet de faire grandir le podcast et de faire briller l'écosystème Health Tech. Chaussez les crampons, prenez les piolets et partons à la découverte de ceux qui feront la santé de demain. C'est déjà le 25e épisode de Health Tech in Progress et aujourd'hui on va parler d'un très gros sujet, l'investissement en santé. Pour ça, je vous ai trouvé un invité d'exception en la personne de Bernard Kirsch. Bernard est lui-même investisseur, mais c'est surtout le président de Angel Santé, le plus gros club de business Angel Santé en Europe. Tout va y passer. Sélection des dossiers, audit des startups, closing d'une levée de fonds, valorisation des startups Health Tech. Je vais m'arrêter là car c'est vraiment un épisode exceptionnel que vous offre Bernard. Et si vous aimez cet épisode, je vous encourage vraiment à le partager et mettre 5 étoiles au podcast. Très bonne écoute à vous. Donc bonjour Bernard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Health Tech in Progress. Donc aujourd'hui on va parler d'investissement en santé, de business angel en santé. Et donc déjà la première question, c'est toujours la question facile, la question classique. Est-ce que tu peux te présenter ton parcours ?
Bonjour Mériadec, merci pour ton invitation. Donc Bernard Kirsch, j'ai un parcours en fait plutôt dans des grands groupes. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine de l'aérien et puis dans le domaine des cosmétiques, toujours dans le domaine des technologies de l'information et je m'occupe plus particulièrement de data privacy actuellement. J'ai un double cursus d'ingénieur et d'école de management ensuite. Et je me suis intéressé il y a une quinzaine d'années, au-delà de cette activité dans les grands groupes, au domaine du private equity, au domaine de l'investissement. Et ça se passe toujours à travers de rencontres, d'événements. En ce qui me concerne, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami qui était lui aussi salarié d'un grand groupe, qui a décidé de changer de vie quelque part et de reprendre une PME dans le domaine du nautisme à l'époque. Et il a fait le tour des amis pour compléter son tour de table. Et j'ai participé à son aventure et c'était la première fois que j'avais une aventure de type equity et c'était passionnant. Malheureusement l'aventure s'est pas très bien terminée, mais en pleine crise financière, mais c'était une expérience extrêmement enrichissante. Et puis ensuite à travers des rencontres, des dîners en ville, je me suis de plus en plus intéressé à ce domaine. J'ai fait une formation complémentaire à HEC France Invest sur le domaine du private equity et puis je me suis lancé il y a une quinzaine d'années. J'ai investi dans des startups, j'ai progressivement focalisé mes thèses d'investissement dans plusieurs domaines, dont la santé, qui est mon domaine d'investissement essentiel. Je me suis vite aperçu que c'était un domaine qui nécessitait un travail plutôt collectif qu'individuel. Je suis rentré chez Angel Santé, j'en suis devenu administrateur il y a quelques années et j'en ai pris la présidence il y a bientôt 3 ans.
Et qu'est-ce qui t'a motivé justement à prendre la présidence, à faire grandir ce bel écosystème ?
Une question d'opportunité, en fait. Stéphanie DeMarco, qui était l'ancienne présidente, hein, que je salue au passage, qui a fait un travail formidable de développement du réseau et notamment l'aventure européenne, a décidé de partir pour une aventure entrepreneuriale. Donc elle est partie créer une start-up. Okay. Elle-même, et elle m'a proposé d'être candidat à sa succession et on a discuté ensemble avec le CA et j'ai accepté cette proposition parce que je trouvais que c'était, au-delà de mes propres investissements à titre individuel, c'était une aventure extrêmement intéressante de développer un réseau à l'international dédié à l'investissement early stage en santé.
D'accord, donc là, tu fais faire la transition automatique. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous présenter, donc Angel Santé, peut-être aussi combien vous avez de membres, quelle est la typologie des membres que vous avez au sein de ce réseau ?
Alors Angel Santé, c'est une association déjà, hein. C'est une association d'investisseurs en amorçage. nous sommes des business angels. Donc les business angels, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce monde, ce sont des individus qui, à un moment dans leur carrière, hein, ont envie d'être dans la transmission, dans l'accompagnement. Donc il y a un volet à la fois financier, puisque nous mettons de l'argent dans des sociétés, mais il y a essentiellement un volet accompagnement, puisque nous prenons des sociétés extrêmement jeunes, hein, en phase d'amorçage, que nous aidons à travers notre réseau, nos compétences, nos expertises, à grandir. Donc nous dérisquons des projets très, très early stage. Donc Angel Santé se positionne comme un acteur de référence dans la santé. Nous ne faisons que de la santé par rapport à des réseaux business angels généralistes, hein, qui touchent à tous les domaines. Nous ne faisons que de la santé. Ce qui, on fait toute la santé par contre, à la fois de la santé humaine et de la santé animale, et on couvre la totalité des domaines, à savoir biotech, medtech, santé numérique, et puis un peu de nutrition et de bien-être.
Est-ce qu'il y a un petit pourcentage, un équilibre entre ces différentes filières?
Oui, je dirais que le deal flow entrant, il faut le regarder sur une période un peu longue, c'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment une accélération du deal flow entrant, des projets qui nous sont soumis dans une thématique, par exemple la santé numérique. Il y a 2-3 ans, on a vu une accélération 50% du deal flow entrant, c'était dans ce domaine-là, et puis avec beaucoup beaucoup de projets d'ailleurs qui étaient relativement immatures, pas mal de gens qui venaient de la tech, qui sont partis dans des projets entrepreneuriaux dans la santé, qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont pas marché. Enfin, donc, voilà. Aujourd'hui, on a un deal flow qui est beaucoup plus mature de ce côté-là, donc moins de boîtes, mais plus qualitatives. Et en même temps, on a davantage de biotech sur ces 12-18 derniers mois.
Même en early stage, ok, ça c'est quelque chose qui m'étonne énormément, d'avoir des biotech comme ça en business angel, c'est hyper risqué en plus. Hein.
Oui, c'est hyper risqué, donc parmi nos membres, il y a des amateurs, je dirais, hein. Effectivement, ce sont la particularité de l'investissement en biotech, c'est que c'est particulièrement long, c'est particulièrement capitalistique, mais il y a parmi nos membres des profils qui sont extrêmement pointus sur ces problématiques et qui éclairent le reste du réseau. Donc pour revenir sur le réseau, juste on est 130 membres aujourd'hui, 130 membres experts du domaine de la santé, des praticiens de toute discipline, des industriels, enfin des gens qui ont eu des parcours dans le domaine des industries de la pharma, des pharma, de la santé plus généralement, mais aussi des généralistes, des hommes de tech, data, hommes et femmes de tech, data, et puis quelques financiers, juristes, etc. Voilà, donc 130 membres experts, nous sommes en plein développement, nous continuons à grandir, nous ne voulons pas devenir un réseau énorme, je dirais, en termes de membres. On veut garder ce positionnement d'expertise très vertical, très, très positionné santé. Mais notre objectif, c'est d'être à 200 membres à peu près, qui serait un réseau pérenne.
Et donc, comment les membres font pour vous connaître? Ils vous contactent ou ils arrivent aussi d'autres réseaux de BA? Et puis...
Voilà, donc nous-mêmes on fait pas mal de, je dirais, d'interventions, hein, comme celle avec aujourd'hui pour nous faire connaître. On a pas mal de cooptation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, c'est un petit milieu. Donc les gens se connaissent, on fait pas mal d'interventions de retour d'expérience pour attirer des nouveaux membres. Et on a, je dirais, des candidatures qui arrivent assez naturellement, qui nous permettent de grandir de l'ordre de 20% par an, c'est à peu près notre croissance ces dernières années.
Ok, parce que là, on va parler justement de la sélection des dossiers, mais vous faites aussi la sélection des investisseurs, des business angels qui rejoignent votre réseau.
Alors la sélection, je pense que le mot est un peu fort, c'est pas tout à fait le mot, mais par contre, on a une procédure, entre guillemets, hein, où les nouvelles candidatures sont examinées par le bureau. Ce qu'on regarde, on est attentif à l'état d'esprit. Parce qu'encore une fois, dans notre rôle de business angel, on a une position vis-à-vis des startups qui allie, je dirais, bienveillance et en même temps exigence. Mais c'est important donc d'avoir de pas être désaligné avec des nouveaux venus en termes d'attente.
D'accord.
Et cet état d'esprit, ces valeurs sont importantes pour nous.
Oui, c'est vrai que j'ai échangé avec Eric Garnier, etc. Ils m'ont parlé beaucoup de la bienveillance du réseau. Et c'est vrai que c'était pas purement pécunier. C'est vraiment, il y a une forme aussi de bienveillance, de coaching, etc.
Absolument.
On y arrive à la question un peu fatidique. Combien de startups vous avez financées pour l'instant? Est-ce que tu as des statistiques sur les réussites, sorties, exits, etc.?
Donc sur le deal flow entrant, nous avons 140 à 150 sociétés qui viennent nous voir tous les ans en France. On a un process de qualification qui se passe en trois temps. La première étape, ce qu'on appelle la présélection, où le porteur de projet passe une heure avec un binôme, donc deux profils complémentaires, qui font pitcher pendant 10 minutes le porteur de projet et ensuite 50 minutes de Q&A. À l'issue de cette première rencontre, il y a le comité de présélection qui se réunit et qui regarde si le projet est suffisamment mûr pour être présenté à nos membres investisseurs. En tout état de cause, on fait un feedback, qu'il soit positif ou négatif, à la startup avec des conseils sur ce qui est important, encore une fois, hein, la bienveillance, le conseil, en disant ben voilà, nous on pense que pour telle et telle raison, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à rencontrer nos investisseurs, on vous conseille de faire ça avant, de faire ci, etc. Donc première étape. Sur cette phase de présélection, on garde à peu près un dossier sur deux.
D'accord, sur les 150 qui rentrent chaque année.
Et ensuite, les projets qui restent donc, sont présentés à nos investisseurs lors de réunions mensuelles. Donc, il y en a une ou deux par mois. Maintenant, ça se passe sous forme virtuelle. On attend de pouvoir se retrouver en physique et on gardera sans doute les deux modes. Là, ça se passe sous forme d'un pitch de 10 minutes, 10 minutes de Q&A et ensuite nous débriefons entre nous. Ce que l'on regarde à ce moment-là, c'est est-ce que parmi les investisseurs, parmi les membres du réseau, il y a des marques d'intérêt pour creuser le sujet, pour aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la due diligence. On a à peu près 40 à 50% des dossiers qui sont présentés en plénière qui sont pris en due diligence. Ces dossiers sont ensuite, on parlera de due diligence plus tard, mais on regarde un certain nombre de points et ça se traduit au bout d'un process qui dure 6 à 8 semaines, soit par une recommandation d'investissement à nos membres, soit par une non-recommandation d'investissement à nos membres. Si la société, enfin si nous, la due deal se termine par une reco d'investissement, à ce moment-là, la startup revient une dernière fois devant les investisseurs, devant nos membres, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est accompagnée par les membres du réseau qui ont instruit le dossier et qui expliquent aux autres membres les raisons pour lesquelles, selon eux, il s'agit d'un dossier à recommander en termes d'investissement. Voilà. Donc c'est un process qui dure 3 à 4 mois.
Ah oui, quand même, oui, en totalité. En plus, c'est bénévole.
Alors c'est bénévole, oui, nous sommes tous bénévoles dans l'association. Hein. C'est un process qui dure 3 à 4 mois. On essaye de ne pas dépasser 3 à 4 mois. Hein. On souhaite être vraiment réactif aussi par rapport à toutes les demandes qui nous arrivent. Et au final, on investit dans une dizaine de sociétés par an, donc, par rapport aux 150. Donc c'est un process qui est assez sélectif. Mais qui, aujourd'hui, Angel Santé, c'est presque un label, je dirais, dans la mesure où on commence à avoir une certaine assise, entre guillemets, dans l'écosystème early stage, et on fait beaucoup de syndications, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réseaux généralistes regardent les dossiers que nous qualifions et qui potentiellement co-investissent avec nous, parfois aussi des family office, des fonds de plus en plus, hein, nous sommes dans des tours avec des fonds d'investissement. Parfois il y a du deal flow qui nous arrive également de la part d'autres réseaux qui n'ont pas forcément l'expertise ou les compétences pour qualifier un dossier santé et avec qui nous collaborons pour regarder cette qualification.
Et est-ce que vous avez déjà des retours? Est-ce que vous avez déjà fait peut-être des exits? Est-ce qu'il y a déjà des startups tout simplement qui n'ont pas réussi? Est-ce que tu as déjà des stats par rapport
à
ça?
Oui, sur les 6-7 dernières années, nous avons investi dans 55 sociétés. Sur ces 55 sociétés, il y en a 4 qui n'ont pas réussi. Voilà, donc
c'est très faible.
4 qui n'ont pas réussi, effectivement, c'est pas beaucoup. C'est en deçà des standards, hein, que l'on peut trouver classiquement sur l'early stage. Je pense que c'est important là aussi de souligner la force du collectif. Et on se trompe, hein, bien sûr, mais le fait d'être à plusieurs avec des regards différents, des parcours différents, ça permet de dérisquer davantage un certain nombre de dossiers. Ensuite, sur les 55, je crois qu'on doit en être à 6 exits. Voilà, et le reste du portefeuille grandit. tranquillement, je dirais, au fil du temps. Au fil du temps, parce que je pense que c'est important de préciser pour ceux qui nous écoutent que un investissement en santé, c'est un investissement sur un cycle long.
D'accord. Est-ce que là-dessus, justement, tu peux nous donner peut-être la différence qu'il y a sur les perspectives, les horizons futurs entre e-santé, medtech et biotech?
Je dirais qu'en moyenne, un investissement santé, ça dure, il faut compter entre 5 et 10 ans. Voilà, donc c'est la perspective, donc il faut être patient, il faut accompagner dans la durée, souvent sur plusieurs tours de financement, les startups. On voit tout de même que ce cycle se raccourcit sur de la santé numérique, hein. Il nous est arrivé de faire un exit là sur un cycle de moins de 2 ans sur une startup, donc, mais ça reste assez exceptionnel. Les cycles sont plutôt, encore une fois, je dirais autour de 5-7 ans sur de la medtech, 5 à 10 ans sur de la biotech et sur des, allez, je dirais 3 à 5 ans sur de la santé digitale.
Ok, bah super. Maintenant, je vais te poser quelques questions peut-être un petit peu plus techniques justement sur la sélection des dossiers, parce que ça, c'est quelque chose qui va intéresser beaucoup nos auditeurs qui sont souvent des entrepreneurs santé ou des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat santé. Et une première qui me vient, est-ce qu'il y a des business models privilégiés ou à privilégier en santé, des business models qui vont plus rassurer les investisseurs? Donc quand je parle de business model, je vais parler de business model B2C, B2B, B2B2C. Est-ce que là-dessus, vous regardez des choses qui vous plaisent plus, qui vous attirent plus?
Non, pas particulièrement. Je veux dire, on voit tout type de business model. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un business model et que ce business model soit crédible. Voilà, donc c'est le plus important. Après, il n'y a pas un modèle plus privilégié par rapport à un autre. Mais je dirais la sélection des dossiers, je dirais ce qu'on regarde. Ce qui est important, tout d'abord, c'est le côté innovation du produit ou du service. Est-ce qu'on est vraiment sur une innovation de rupture ou est-ce qu'on est plutôt sur de l'innovation incrémentale? Ça, c'est important. On regarde quel est le niveau de développement du produit ou du service. Est-ce qu'on en est juste à la preuve de concept? Est-ce qu'il commence à y avoir un début de traction? Voilà, ça, c'est important. On regarde, bien sûr, tous les côtés IP. C'est absolument essentiel hein, d'avoir une IP sécurisée lorsqu'on commence à aller voir des investisseurs. Donc ça, c'est vraiment un jalon en termes de maturité qui est important. Et on regarde de manière assez macro à ce stade l'approche de ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire la partie market access, quels sont les voilà, et le business model, hein, qui est envisagé. Voilà, donc ça c'est une première partie. Ensuite, ce qu'on regarde, c'est le marché. Donc, quelle est la taille du marché, la scalabilité du marché.
Quelques petites questions à te poser là-dessus juste après.
Ok, voilà, donc le produit, le marché, l'équipe, hein, critère numéro un pour nous. C'est absolument, absolument clé. Le profil des fondateurs, leur capacité à travailler en équipe, leur capacité d'écoute, leur capacité à s'entourer. Ça, c'est un point absolument, absolument clé. On regarde également l'historique de financement, la structure de la table de capitalisation, comment ils ont levé des fonds en dilutif et en non dilutif jusqu'au moment où ils viennent nous voir. Et puis, on a toujours une note, je dirais, de synthèse qui est une impression générale. Et c'est important, en tant qu'investisseur, de sentir l'opportunité, sentir le fit avec le projet, avec les porteurs de projet. Ça fait partie également de nos critères.
Ok, donc on voit qu'il y a beaucoup d'humains. Et j'avais une question qui me venait, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y a 2-3 ans, vous voyez arriver des projets e-santé assez peu matures. Quel niveau de maturité tu conseilles aux entrepreneurs qui nous écoutent avant de venir contacter Angel Santé?
Je pense qu'il faut qu'il y ait un produit qui soit suffisamment avancé, hein, avec une preuve de concept qui soit réelle. Si possible, donc une IP sécurisée, une équipe qui soit à minima constituée et un minimum de traction commerciale, alors pas forcément du chiffre d'affaires, mais je veux dire des partenariats commerciaux ou des preuves de concept qui ne soient pas faites en dehors d'une perspective client. Voilà.
On va revenir maintenant sur la due diligence. Est-ce que tu peux nous expliquer étape par étape comment ça fonctionne et peut-être justement avec quels outils d'évaluation vous travaillez ?
Donc une due diligence, comme je l'ai dit, ça dure 6 à 8 semaines et l'objectif, c'est de creuser hein, tout ce que nous racontent les porteurs de projets, parce que les porteurs de projets nous disent beaucoup de choses.
Mais c'est notre... vrai qu'on a tendance à survendre lors du pitch, donc il voilà. faut aller chercher le vrai du faux.
Voilà, donc notre responsabilité, elle est vraiment de vérifier et de qualifier tout ce que peuvent nous raconter les... Et au-delà de ces aspects de vérification, c'est un moment très important également parce qu'on passe du temps avec les porteurs de projets et donc on voit tout de suite assez vite notre capacité à travailler ensemble. Encore une fois, je reviens sur le fit, hein. C'est aussi quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans une due diligence ? Ben, la première chose, on va regarder des documents administratifs, les statuts de la société, les procès-verbaux des dernières assemblées générales, ce genre de documents. Ensuite, sur l'équipe, on regarde les CV, on vérifie quelques points. On regarde également les contrats de travail, voilà, ce genre de choses.
Il ne faut pas avoir un contrat de travail à 100 000 euros pour le fondateur sur une jeune start-up, ça ne marche pas. Ça.
Par exemple. On regarde également le board ou en tout cas des key opinion leaders, parce que souvent les startups mettent en avant et à juste titre hein, qu'elles ont été accompagnées par des key opinion leaders. Donc on regarde quelle est la composition et souvent on demande à discuter avec un certain nombre de key opinion leaders qui accompagnent la startup ou des key opinion leaders du domaine qui sont pas forcément autour de table de la startup. Le marché, donc on rentre vraiment dans le détail de l'analyse du marché, on demande des documents qui sous-tendent l'analyse du marché que propose la startup. La partie techno également, donc la validation de la technologie, c'est-à-dire s'il y en a, quels sont les résultats précliniques, qu'on nous les partage, ou les résultats cliniques, les publications scientifiques, on demande à y avoir accès également s'il y en a. Du côté IP, on demande les brevets et on vérifie que ces brevets ont bien été déposés, qu'ils ont bien la couverture qui est annoncée. La compétition, donc on demande un benchmark assez détaillé de l'analyse de la compétition avec les sources d'informations, la stratégie de développement commercial, hein, comme je l'ai dit. Le BP, on rentre vraiment dans le détail du BP parce qu'on voit souvent des croissances de chiffre d'affaires assez très stratosphériques sur les 3-4 ans. Donc on essaye de matcher ça avec des KPI. Concrètement, ça veut dire combien d'hôpitaux, ça veut dire combien de clients.
C'est vrai que le business plan, des fois on entend, je sais pas, quand on entend par exemple un Oussama Hamar qui dit que ça sert à rien, je sais pas ce que t'en penses du business plan. Parce que c'est vrai que quand tu l'écris, c'est vraiment de la projection pure et dure. On a tendance à survendre le projet. Donc...
Moi, je ne dirais pas qu'un business plan, ça sert à rien, parce que ça sert à illustrer une stratégie que l'on cherche à valider. Par contre, ce qui est vrai, c'est que je crois que nous n'avons vu aucune startup qui a délivré un business plan conforme à ce qui nous a été vendu. Mais ça, ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une cohérence entre les chiffres qui nous sont montrés et puis des indicateurs plus... quantitatifs qui sous-tendent ces chiffres. La dernière chose, ce qu'on regarde, c'est l'historique du financement, encore une fois, hein, comme je l'ai dit. Est-ce qu'il y a déjà un pacte d'actionnaire ou pas ? Si oui, on demande à le voir, on regarde les clauses qu'il y a dans ce pacte. Quelle est la structure de la table de capitalisation, ce genre de choses. Donc, ouais, tu vois, c'est quelque chose d'assez complet, hein, d'assez large. Et qui donne encore une fois l'occasion de passer du temps avec les porteurs de projets et de les connaître assez vite en fait.
Donc cet audit, il est réalisé par un ou deux membres d'Angel Santé qui auraient manifesté leur intérêt lors de la première assemblée plénière.
C'est ça, alors généralement, on essaie de constituer une équipe de 2, 3, 4 personnes, hein, parce qu'on se répartit le travail, et au-delà de l'équipe qui instruit le dossier, on peut, sur tel ou tel sujet, demander une expertise particulière de quelqu'un qui n'est pas spécifiquement en train d'instruire le dossier, mais qui peut jeter un œil et puis qui peut éclairer. On s'appuie également sur la compétence et l'expertise de nos membres corporate associés. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais au-delà de nos membres, nous avons également... des partenaires qui sont d'abord des gens qui nous soutiennent, au service de l'innovation santé, mais qui apporte aussi une expertise, une compétence pour aider à qualifier des dossiers un peu pointus. Donc, dans le domaine de l'IP, je peux citer ICOSA, hein, par exemple, qui est un expert de ce domaine et que nous pouvons ponctuellement consulter, pas sur tous les dossiers, mais sur certains dossiers pour apporter un éclairage si c'est nécessaire.
D'accord. Je vais revenir sur un point qui m'intéresse particulièrement. Donc, tu as évoqué justement lors de la due diligence l'analyse du marché. Et ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément parce que bah, typiquement, sur des startups santé, on parle de marché qui n'existe peut-être pas forcément. Donc, sur quels éléments vous allez vous baser pour déterminer si un marché il est intéressant, porteur, pas porteur? Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément.
Je pense que s'il n'y a pas de marché, généralement, l'innovation ou la startup aura du mal à trouver son débouché. Par contre, donc, ce que je veux dire, c'est que forcément, à l'origine, il est souhaitable qu'il y ait un besoin médical non adressé. Et on peut espérer qu'adresser ce besoin médical correspond à un besoin de marché que l'on peut qualifier. Donc ça, c'est quelque chose d'assez... assez important. Par contre, ce qui est vrai, et c'est quelque chose qu'on regarde, qui n'est pas forcément bloquant, mais il arrive que certains marchés aient besoin d'être éduqués. C'est-à-dire qu'il y a des marchés où on apporte une innovation de rupture et je dirais que le market access peut se faire de manière assez traditionnelle. Il y a des marchés où parfois il y a une phase d'éducation, une gestion du changement qui est très lourde, une phase d'éducation dont on tient compte. Dans la mesure où forcément le déploiement ou là va être un petit peu plus lent, parfois un peu plus coûteux, mais c'est pas forcément bloquant parce que derrière, si le potentiel est là, c'est pas un sujet.
C'est vrai que ça fait écho avec l'échange que j'ai eu avec Alexis Arnaud, donc le CEO de Calmedica, qui m'expliquait aussi qu'il y avait besoin d'éduquer des marchés. Mmh. Donc c'est pas des choses qui vont vous faire peur. Vous allez quand même vous dire si vous voyez un marché qui est éducable, on va dire sur 3 à 5 ans, vous y allez quand même ou vous dites on va peut-être attendre un petit peu.
Non, on y va encore. Ça, c'est le potentiel du marché, l'équipe, enfin tous les critères que j'ai déjà décrits qui font, c'est pas quelque chose qui est bloquant.
D'accord. Je vais te poser une autre question qui est vraiment dans l'air du temps. On parle souvent de valorisation des startups santé. Et déjà, je voulais savoir qu'est-ce que c'est la valorisation et quelles sont les différentes méthodes à utiliser pour définir la valorisation, notamment pré-monnaie, d'une startup santé.
Vaste sujet. Vaste sujet.
Je ne vais pas mentir, c'est parce que j'ai lu votre billet sur votre blog et du coup, ça m'a fait penser à cette question et j'avais envie de te la poser.
Non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est un sujet, je dirais, de discussion régulier avec les porteurs de projets, avec les startups. Et c'est un sujet qui est assez difficile dans la mesure où il n'y a pas de vérité absolue. Donc, il y a des méthodes financières, DCF, etc. Donc, mais bon, qui sont basées sur des hypothèses qui sont extrêmement challengeables. On utilise souvent, avec l'expérience, davantage la méthode des comparables. C'est-à-dire qu'on a maintenant vu quand même pas mal de startups. On voit ce qui se passe en France, on voit ce qui se passe en Europe. C'est intéressant d'ailleurs de voir que la valo d'une société entre la France et certains pays anglo-saxons notamment, en Angleterre, on voit des startups au même niveau de développement qui sont valorisées à des valeurs plus faibles en France qu'en Angleterre, par exemple. Donc, il y a aussi une dimension culturelle dans chaque marché autour de ces notions de valo. Donc, moi, généralement, on utilise deux ou trois méthodes. On regarde des fourchettes, on regarde où ça se situe par rapport à des comparables, à notre historique. Ensuite, on discute avec les porteurs de projets. Une métrique assez classique, c'est qu'un tour de table, un premier tour de table de levée de fonds, on doit être dans une dilution qui est de l'ordre de 20 à 30% maximum pour les fondateurs.
D'accord, ok. Donc ça, c'est des choses que vous regardez. Et est-ce que s'il y a du chiffre d'affaires, vous allez regarder aussi peut-être le chiffre d'affaires qu'il y a déjà ?
Oui, quand il y a du chiffre d'affaires, on regarde le chiffre d'affaires et la projection. Oui, tout à fait.
Ok. Donc là, maintenant, on a fait un petit peu tout le parcours pour l'évaluation des startups. Et donc, on va parler maintenant du moment du closing, donc la fin. Et là, c'est des questions qui me viennent de Bertrand Baheu, avec qui j'ai fait une masterclass justement sur la levée de fonds en santé. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce que contient la LOI, donc la lettre d'intérêt. Et peut-être aussi ensuite d'autres questions sur les outils que vous utilisez.
Donc au niveau de la LOI, hein, rien de révolutionnaire dans ce que je vais dire. Généralement, bon, c'est une intention. On retrouve classiquement bah, le montant de l'investissement, la valorisation, un certain nombre de conditions à réaliser suspensives, et puis une durée de validité. Bon. Et ce qu'on retrouve également, ce sont quelques clauses clés qui seront dans le pacte d'actionnaires ultérieurement. Et donc, généralement, une clause de liquidité, une clause de good bad liver, on pourra y revenir. Hein. Souvent, dans les term sheets, on retrouve également quelque chose sur la composition des comités stratégiques. Voilà, donc ça, ce sont les éléments classiques d'une term sheet.
D'accord. Et quels instruments financiers vous allez utiliser? Donc, des actions ordinaires ou des BSAR?
Alors, nous sommes plutôt investisseurs en actions ordinaires. À titre individuel, certains de nos membres accompagnent des sociétés également avec des BSAR, mais il faut savoir que la fiscalité des BSAR n'est pas la même que celle de l'investissement direct en equity, et que bon, il y a un élément de fiscalité qui joue aussi dans certaines décisions d'investissement. Donc, ce sont plutôt des actions en direct.
Okay. Et j'ai aussi une grosse question, là c'est sur le véhicule d'investissement, parce que donc, comme on le sait, vous allez être plusieurs à investir, donc peut-être des fois 20-30 personnes, donc est-ce que vous utilisez un véhicule d'investissement pour pas que la start-up se retrouve directement avec 30 personnes au capital? Et est-ce qu'il y a une personne qui représente Angel Santé dans la start-up?
Alors il y a une personne qui représente Angel Santé au board, au comité stratégique de la société. Parce que systématiquement, lorsque nous investissons dans une société, on demande à être présent au comité stratégique. Et même s'il y a 15, 20, 30 investisseurs d'Angel Santé individuels, il n'y a qu'un représentant au comité stratégique. Donc un seul interlocuteur pour les startups. Par contre, on évite de monter des instruments, des sociétés, des véhicules, parce que ce sont des frais supplémentaires, une complexité de gestion. Et puis, dans notre culture, la participation en direct au capital, c'est aussi un moyen de factualiser la notion d'accompagnement, la notion d'engagement, la notion de présence. Voilà, on n'est pas dissous quelque part dans un véhicule anonyme. Donc, par contre, on adresse le point de gouvernance et qui est tout à fait légitime de la part des startups. On a individuellement la liste des investisseurs dans le pacte d'actionnaires, dans la table de capitalisation. Par contre, il y a un représentant donc unique au comité stratégique et un représentant qui fédère la totalité des investisseurs individuels dans les décisions sur lesquelles nous sommes amenés à nous prononcer.
Est-ce que vous participez aussi à la création du SIB? Ça, c'est une grosse question qui revient souvent dans mes interviews, dans mes échanges avec les entrepreneurs santé et la constitution du SIB. Donc, est-ce que vous y participez, sachant qu'on est quand même assez tôt finalement en early stage?
Oui, on incite les startups à le créer. C'est important à partir du moment où des investisseurs rentrent autour de table. C'est important d'avoir un comité stratégique avec des représentants des fondateurs. Il peut y avoir aussi des personnes qualifiées, externes, et puis des représentants des investisseurs. Donc c'est essentiel d'avoir ce lieu de débat, d'échange. Hein. C'est un organe consultatif, le comité stratégique, mais c'est essentiel. Il se réunit une fois par trimestre, généralement, et c'est quelque chose à mettre en place dès le début, et je dirais encore plus dès le début, quand la startup a besoin d'avoir ce ping-pong, je dirais, avec les investisseurs, où toute question d'orientation stratégique est débattue.
D'accord. Ok, bah merci pour toutes ces réponses sur Angel Santé. Je vais te poser maintenant quelques questions un peu plus générales sur l'écosystème investissement santé dans sa globalité. Et j'ai une première question, donc là, ça sera sûrement pour nos auditeurs un peu plus néophytes. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre le Love Money, l'investissement en Business Angel, le pré-seed, le seed, la série A? Est-ce qu'il y a des milestones à atteindre pour être catégorisé dans l'une ou l'autre de ces catégories?
Oui, ce sont effectivement les différentes phases du cycle de financement que tu as décrit. Donc, la love money, c'est quoi, hein? C'est vraiment friends and families, hein, comme on dit. C'est le tout début de l'aventure. On part d'une idée, d'un concept. Il faut trouver un peu de financement. Donc, généralement, l'aventure commence avec un petit peu d'argent en equity, mais surtout des bourses. Donc en France, il y a énormément de compétitions où vous pouvez gagner un peu d'argent, ou même pas mal d'argent, hein, pour aider au démarrage jusqu'à la preuve de concept. Donc c'est essentiellement du non dilutif au démarrage et un peu d'equity avec des proches, avec voilà. Donc ça, c'est la première phase qui arrive à un niveau de maturité qui est à peu près celui où rentrent en jeu les business angels. Donc je l'ai décrit tout à l'heure, hein. Donc ce qu'on appelle du seed, pré-seed, seed, après bon, le vocabulaire est assez proche, hein. Donc les business angels interviennent à ce stade de maturité. C'est le premier cycle d'investissement. Ce sont des levées qui vont de quelques centaines de cas à quelques millions d'euros à peu près, hein, et qui donne lieu souvent également à un accompagnement en non dilutif. Il y a pas mal d'outils pour aider ce cycle de financement. La troisième étape, c'est effectivement la série A. La série A, c'est assez large, hein, donc on peut trouver des pré-série A, des série A, mais là, il s'agit d'un financement qui peut aller de quelques millions à une dizaine de millions d'euros. Et où la startup à ce moment-là a bien avancé sa preuve de concept, a avancé dans la réalisation de son projet, commence potentiellement à avoir des possibilités de développement à l'international, ou accélère des nouvelles phases si on parle de biotech, voilà, série A. Et ensuite, ça continue avec les séries B, les séries C, et puis vous avez même des séries D et au-delà. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le cycle de financement classique.
Et est-ce que Angel Santé a vocation à réinvestir dans les entreprises ?
Oui, toujours. C'est-à-dire pour celles qui fonctionnent bien, pour celles qui se développent conformément à ce qu'on espère, Angel Santé a vocation à réinvestir. Donc 30% à peu près des investissements annuels que nous faisons sont en fait des deuxièmes tours ou des troisièmes tours dans des startups qui ont déjà été investies.
Ok, d'accord. Moi, ça, je savais pas du tout. Et ça m'emmène sur une autre question automatique. Comment se passent justement les interactions entre Angel Santé, le business angel en général, et les autres acteurs de l'investissement ? Donc, je vais penser notamment au VC. Est-ce qu'ils voient d'un bon œil une startup qui a déjà beaucoup de business angel au capital ?
Oui, en fait, nous sommes connectés à la totalité de l'écosystème. Donc, à la fois des business angels généralistes. Hein, vous avez pas mal, hein, même s'il y a moins de business angels en France que dans d'autres pays européens, il y a quand même un écosystème qui se développe, hein, qui est présent. Donc, nous avons des relations avec quasiment tous les autres réseaux de business angels. Nous sommes également connectés de plus en plus avec des family office qui co-investissent avec nous. Et puis il y a un certain nombre de VC, hein, qui sont spécialisés early stage dans le domaine de la santé. Les VC ont tendance à venir de plus en plus tôt d'ailleurs, hein, mais nous cohabitons avec eux régulièrement, notamment pour les sociétés sur lesquelles nous réinvestissons. C'est-à-dire qu'on peut faire un tour de seed plutôt business angel, et ensuite un deuxième tour dans lequel on cohabite avec des VC. Donc la relation avec les VC est bonne, hein. Parfois nous sommes concurrents sur certains dossiers, ça peut arriver. Ça peut arriver, donc la relation...
C'est la question sous-jacente.
Mais je dirais la relation est vraiment fluide et bonne. C'est tout un écosystème, hein, entre le porteur de projet, les VC et Angel Santé. On a de plus en plus l'habitude de travailler ensemble, on est présent sur de plus en plus de dossiers et nous sommes très complémentaires, chacun à sa place.
D'accord, ok. Et justement par rapport à ça, est-ce que tu observes des grandes tendances dans l'investissement LSTech aujourd'hui ?
Ouais, on a une tendance nette, hein, c'est l'impact du numérique. Le numérique est présent dans, je dirais, 75 à 80% des projets dans lesquels nous avons investi sur les 18 derniers mois.
Ah oui, en effet, oui, c'est énorme.
Donc c'est énorme. Alors on y trouve à la fois des dossiers de santé digitale pure, mais aussi les dispositifs médicaux aujourd'hui, à part quelques cas très particuliers, les projets de dispositifs médicaux ont une composante numérique qui est extrêmement forte, hein. Donc quand on additionne cette partie-là plus la santé pure, on est à 75% des dossiers sont autour du numérique. Après, quatre grands domaines, hein, dans cette grande poche, je dirais, beaucoup de projets autour de la digitalisation du parcours patient. Donc beaucoup de projets sur du monitoring à distance avec des objets connectés, donc de la télésurveillance, on voit des choses assez variées, hein, donc digitalisation du parcours patient et personnalisation des parcours. Beaucoup de projets autour de la data. De plus en plus, on a de multiples sources de données qui sont très fragmentées, très hétérogènes. Donc, beaucoup de projets pour mettre de manière plus uniforme toutes ces données dans des entrepôts de données et à partir de là, aller déployer de l'intelligence au service d'un cas d'usage pour un métier, pour un hôpital, etc. Donc, beaucoup de projets autour de la data. Troisième tendance, tout ce qui touche autour de la digitalisation du drug discovery. Le process de drug discovery, notamment en période Covid, hein, il y a eu beaucoup d'investissements pour accélérer la mise au point de nouvelles molécules. Donc la digitalisation de ce process, à la fois pour des petites molécules, mais aussi pour des anticorps, c'est une tendance lourde, on voit beaucoup de projets là-dessus. Et également une dernière catégorie qui sont plutôt des outils de productivité pour aider les professionnels de santé, pour aider les médecins, que ce soit au cabinet ou à l'hôpital. Voilà, quelques grandes tendances. Sinon, dans les domaines, il y a trois grands domaines qui domine, je dirais, c'est la cardiologie, l'oncologie, bien sûr, et le domaine des neurosciences, sur lequel on voit de plus en plus de projets passer. J'en profite d'ailleurs pour dire un mot sur le projet d'accélérateur en santé mentale, hein, qui a été officialisé récemment.
C'est hier justement, je crois qu'il y a Emmanuel Macron qui a fait une annonce hier justement, donc hier le 29 septembre pour ceux qui nous écoutent.
Voilà, et en fait nous sommes partenaires, hein, de ce projet.
D'accord.
Nous avons apporté toute notre expertise au service de la santé mentale. Donc voilà, cardio, onco et neurosciences sont des grands domaines sur lesquels il y a beaucoup de projets.
D'accord, ok. Maintenant, il me reste les quatre petites questions pour terminer. C'est des questions assez rapides. Et la première de cette série de quatre questions, c'est la question des auditeurs. Et ça, je sais que c'est une question qui revient très régulièrement de la part des entrepreneurs santé. Comment construire le pitch deck parfait, justement, pour les pitcher devant des investisseurs, devant des business angels? Est-ce que tu as des astuces à nous donner pour performer dans cet exercice?
Je pense qu'il faut rester simple, avoir un message qui est clair. Ce que je regarde toujours, hein, c'est why, what, how. Donc c'est pourquoi. Quel est l'objectif, hein, quel est le sens du projet qui est présenté? Quelle est l'ambition? Quel est le sens? Donc ça, c'est la première chose. Il faut que ça soit très clair. Le deuxième, c'est par rapport à cette ambition, par rapport à cette quête de sens sur une thématique donnée, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, hein, qu'est-ce que la startup propose en termes d'action pour faire ça. Et le how, c'est comment y arriver, donc avec si, avec telle ressource, avec tel plan d'action. Voilà. Donc il faut que ça soit assez fluide, je dirais, dans le descriptif. Bon, ensuite, moi je recommande toujours d'avoir des slides qui soient raisonnablement chargés, faciles à lire, et puis de l'entraînement à l'art oratoire aussi, c'est important. Quand on voit passer beaucoup de startups, on participe à beaucoup de jurys, donc on envoie beaucoup des pitchs. L'expérience montre que sur les 30 premières secondes, il y a une accroche qui se fait ou qui se fait pas, qui change tout dans la qualité de l'écoute de l'investisseur sur le reste du deck.
Donc tu conseilles de toujours de contextualiser avec une petite histoire, il y en a qui mettent un petit peu de storytelling au début, est-ce que c'est quelque chose qui marche ou est-ce que c'est justement une technique un petit peu éculée?
Non, je pense qu'il faut vraiment, encore une fois, donner un peu la mission, c'est quoi la mission? Ensuite, quand même expliquer quel est le problème qu'on adresse, comment on va le faire, etc. Donc oui, il faut un storytelling, mais dans le sens plutôt du déroulé des slides. Et encore une fois, pas des slides avec des kilomètres de texte super chargés. On décroche très vite comme ça.
Ok. Et allez, encore deux petites questions. Quelle est ton ambition finale avec Angel Santé ?
L'ambition finale avec Angel Santé, c'est vraiment de devenir le référent de l'investissement early stage santé en Europe. Donc, on n'en a pas parlé, mais au-delà de nos activités françaises, nous sommes également présents au niveau européen hein, pour des startups un petit peu plus matures qui ont été, dérisquées en amorçage sur leur marché domestique. On qualifie des startups venant de tous les pays européens que nous mettons en relation avec des investisseurs early stage de 18 pays, 70 investisseurs avec lesquels nous travaillons dans le cadre d'un programme qui s'appelle Investor Network avec EIT Health. Donc ce sont des choses très complémentaires de nos activités françaises. Donc ce que l'on souhaite, c'est vraiment être le référent pour la totalité de l'investissement amorçage en santé en Europe. Nous sommes d'ailleurs également les référents santé des deux gros réseaux de business angels européens qui existent, hein, qui s'appellent BAE et IBAN. Donc l'objectif, c'est vraiment de fédérer la totalité de l'écosystème early, à la fois en France, mais aussi en Europe.
Et justement, c'est une petite question que je rajoute, mais comment se positionne la France au niveau européen, au niveau des investissements en business angel?
Je dirais la force de frappe des business angels en France est plus faible que dans d'autres pays. Donc, un des objectifs, hein, je parlais de croissance au début de notre entretien, c'est 130 à 200 membres. Notre objectif est vraiment de continuer à grandir. C'est important d'ailleurs, vous pouvez, tous ceux que ça intéresse, suivre nos activités à la fois sur LinkedIn, vous abonner à notre newsletter pour vous rendre compte et vous êtes les bienvenus pour venir écouter une séance de pitch de start-up. Je trouve que c'est toujours intéressant. Mais notre objectif, au-delà d'Angel Santé, est vraiment de continuer à développer l'écosystème Business Angel qui joue un rôle clé dans cette phase d'amorçage de l'innovation, quel que soit le domaine.
Et ma dernière question, c'est la question totem du podcast. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu un côté aventurier chez les entrepreneurs santé et chez tous ceux qui gravitent autour de l'écosystème santé, donc investisseurs, chargés de valorisation, chargés d'incubateurs, d'accélérateurs, etc. Et donc, ma question, elle est très simple. Est-ce que tu as un aventurier préféré qui te stimule un petit peu tous les jours dans tes activités pour booster l'écosystème Healthtech?
D'abord, ta remarque est très pertinente. C'est très vrai. Il y a vraiment un côté état d'esprit entrepreneurial dans chacun d'entre nous, dans chacun des business angels également qui accompagnent ces différents porteurs de projets. Donc non, à titre personnel, j'ai deux aventuriers que j'apprécie. J'ai toujours été admiratif de ce qu'a fait Marco Polo, hein, 13e siècle, 25 ans de voyage sur les traces de la route de la soie. Je trouve que c'est fascinant. J'ai lu beaucoup de choses sur lui et sur ce qu'il a fait. Et puis plus récemment, je suis amateur du Grand Nord. Je trouve que c'est une zone qui est assez fascinante. Et j'apprécie particulièrement ce que fait Nicolas Vanier. Toutes ses expéditions en solo dans le Grand Nord, c'est quelque chose d'assez fantastique.
Ok, bah des super aventuriers, on ne les avait pas encore cités, donc je vais les rajouter, à ma liste de tous ceux qu'on m'a cités. En tout cas, merci beaucoup Bernard. Comme promis, je t'ai fait durer aussi plus longtemps que mes 30 minutes prévues, mais c'est hyper intéressant. Bon, j'ai encore beaucoup d'autres questions à te poser, tu t'en doutes. Mais merci beaucoup pour ce super échange.
Merci Myriadec, merci.
Voilà, c'est la fin de cet épisode de Healthtech in Progress. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Je suis Myriadec Guignard et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre exploration de l'écosystème Healthtech français.